Turning this evening to the book of the prophet Malachi, chapter 3 and verse 8.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce soir dans le livre du prophète Malachi, chapitre 3, verset 8. Le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachi, chapitre 3, verset 8. Et ces paroles remarquables, l'homme trompera-t-il Dieu ? Car vous me trompez. L'homme trompera-t-il Dieu ? Et c'est là notre sujet ce soir, notre dette envers Dieu. Devoir quelque chose à Dieu. Devoir quelque chose à Dieu. Comment est-ce que vous pouvez avoir une dette envers Dieu ? De nos jours, en ces jours athées, où on ne mentionne même pas Dieu, on ne pense pas à lui, l'idée de lui devoir quelque chose n'est pas à l'esprit des gens. Et nous ne pensons pas que nous devons quelque chose à Dieu. Mais notre instinct, en dehors même des Écritures, notre instinct même nous dit que Dieu, s'il est là, est infini. Il est tout-puissant. Il est le créateur de toutes choses. Il est le propriétaire de toutes choses et possède toutes choses. Sa richesse, si vous voulez, sa propriété, ce qu'il possède, ne peut pas être mesuré. Comment est-ce que vous pouvez devoir quelque chose à Dieu ? Et si vous pensez à une dette, d'avoir une dette et je ne paye pas en retour, alors je prive quelqu'un de son argent. Mais comment est-ce que je peux priver Dieu de quelque chose? Il a toute chose. Rien ne va lui manquer. Il est entièrement au-delà de tous les riches de ce monde mis ensemble en tout ce qui est concevable. Comment est-ce que vous pouvez avoir une dette envers Dieu? Et cependant, l'Écriture dit cela. L'homme trompera-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et nous ne pensons jamais à ces choses. Nous ne sommes pas conscients de cela. Voler ce qui appartient à Dieu. Et les gens de l'époque ont répondu, en quoi t'avons-nous trompé ou volé? De quelle manière t'avons-nous trompé? Ils n'étaient pas conscients de cela. C'est intéressant, mais ce terme trompé ou volé, en hébreu, ce terme vient du terme de cacher. Parce que le vol est toujours quelque chose qui est fait en secret. Le voleur ne veut pas être découvert, il ne veut pas être attrapé, il ne veut pas être condamné, et c'est l'opposé même. Il veut avoir le respect des autres, que les gens pensent qu'il est quelqu'un de bien, comme tous les autres. Ainsi, le vol est quelque chose de secret, fait en secret, un processus caché. Et c'est toujours le cas, même lorsqu'on vole ce qui appartient à Dieu, nous voulons penser que nous sommes des gens raisonnables ou des gens bons, de bonnes personnes. Nous ne pensons pas que nous sommes des voleurs et que nous volons ce qui appartient à Dieu. Ainsi, nous ne pensons pas à ces choses dans notre esprit, pas un instant. Voler ce qui appartient à Dieu, c'est un sujet extraordinaire et il est nécessaire pour nous que de réfléchir à ces choses. Qui rend honneur à Dieu ? Dans ces temps si matérialistes, est-ce que vous le remerciez pour votre vie? Est-ce que vous le remerciez pour la conscience humaine? Vous savez qui vous êtes, vous avez une identité, vous êtes conscient de votre environnement et de vos sentiments. C'est là un mystère immense, la conscience de l'homme. C'est quelque chose d'extraordinaire et de complexe. Personne ne peut expliquer ces choses en termes de biologie. Personne ne peut dire où ceci est centré dans la constitution de l'homme et comment ceci opère la conscience humaine et puis la capacité de raisonner, vos capacités, votre capacité à décider de choses, à raisonner. Est-ce que vous remerciez Dieu pour cela? Vous êtes reconnaissant pour ces choses et vos dons, votre mémoire, tout ce que vous avez? Ou vos dons particuliers, est-ce que vous le remerciez pour vos sentiments, pour votre bonne santé, dans une certaine mesure, pour vos corps, pour vos membres, pour ce qu'il pourvoit pour vous, pour l'air que vous respirez, pour la nourriture que vous mangez. Cette louange à Dieu et cette reconnaissance, chacun d'entre nous, dans notre nature même, jusqu'au jour où il œuvre dans nos cœurs, où il sauve nos âmes, nous sommes coupables de voler ce qui appartient à Dieu. Et nous n'avons pas d'intention à lui rendre honneur, à lui rendre hommage, ou à penser à lui. Nos dons, dans nos voix insensées, dans notre orgueil, c'est comme si nous les avions fait nous-mêmes, c'est comme si nous étions donné nous-mêmes des dons. Si nous sommes élégants dans notre apparence, nous pensons que nous nous sommes créés nous-mêmes et nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu pour toutes ces choses. Nous sommes comme des petits-enfants. Nous comprenons ceci dans les petits-enfants. Ils ne remercient pas leur maman, leur papa pour tout ce que leurs parents font pour eux. Peut-être que parfois, ils s'en souviennent parce qu'on leur apprend à être reconnaissants. Mais naturellement, ils ne remercient pas leurs parents. Et alors qu'ils grandissent, qu'ils deviennent adolescents, les parents savent que l'enfant prend toutes ces choses comme étant dues et ils pensent que tout est facile pour ses parents. Et de même pour nous devant Dieu. Nous prenons toutes choses comme étant dues, entièrement. En tant que jeune, je suis désolée pour cette illustration, mais pendant mon service militaire, on m'a donné un ou deux travaux un peu étranges. Et le travail que je n'étais pas vraiment capable de faire, mais l'une de mes tâches, on m'a demandé d'aller dans un bureau, dans une grande caserne militaire. Et la tâche de ce groupe de personnes, c'était d'organiser la cour martiale. Et toutes ces personnes qui ont commis des crimes, il y avait beaucoup d'absentéisme et même des gens qui désertaient. Ainsi, vous deviez organiser le jugement pour ceux qui étaient absents et pour ceux qui ont déserté. Et il y a une grande différence entre être absent sans avoir prévenu ou être quelqu'un qui a déserté. Et la condamnation était bien plus grande pour les déserteurs. Et ceux qui étaient absents ou qui ont déserté, d'une manière ou d'une autre, ils étaient attrapés par la police civile. Peut-être qu'ils ont commis une offense mineure ou ils étaient attrapés de toute manière. Et ils les trouvaient sur la liste de ceux qui ont déserté parmi les forces militaires. Ils les arrêtaient et ils les renvoyaient dans la caserne. Et tout de suite, ils étaient mis derrière les barreaux pour être jugés. Ils essayaient toujours de montrer qu'ils étaient simplement absents. Oh, c'est un peu difficile de montrer ceci quand vous étiez absent pendant 5 ans, de prouver à cette cour martiale que votre intention était de revenir. Oh, c'était difficile pour eux de prouver cela, mais ils trouvaient toutes sortes d'histoires bizarres qui les empêchaient de revenir. Mais il y avait une différence. Parce que si la personne était coupable de déserter le service militaire, alors il était condamné d'une manière très sérieuse. Comme nous, sans honorer Dieu, sans le remercier, sans gratitude. Mais jamais nous voulions le remercier, jamais nous voulions l'honorer, pas comme des absents qui voulaient revenir pour nous tourner vers Dieu, pour le remercier. Non, nous sommes comme ceux qui ont déserté, loin de Dieu, sans la moindre intention de fléchir le genou devant lui. Et ainsi, notre dette envers Dieu est grave et grande. Nous devrions montrer notre gratitude envers Dieu de différentes manières. Rapidement, d'abord, nous devons le louer et le remercier. Ceci est évident. Nous devrions le remercier, l'honorer et lui donner tout le crédit pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a donné. Mais nous ne le faisons pas. Nous résistons contre lui, nous le mettons de côté, nous sommes contre lui. Et c'est un crime terrible. C'est pas simplement emprunter, mais c'est voler. Et d'une autre manière également, nous lui devons notre gratitude, mais non seulement notre gratitude, mais également notre amour, notre appréciation, notre affection, et au lieu de cela, nous mettons toute notre affection dans les choses terrestres ou en nous-mêmes. Et nous avons très peu d'appréciation, d'affection pour Dieu. mais uniquement pour les choses que nous pouvons ressentir, les choses que nous pouvons toucher. Et il y a une autre forme par laquelle nous devrions lui rendre hommage, nous devons lui obéir. Il nous a donné des instructions sur comment nous devons vivre pour lui, comment nous devons utiliser les choses qu'il nous a données. Et ce corps, cet esprit, cette réflexion est notre âme et comment nous devons vivre dans ce monde. Et nous mettons ces choses de côté et nous les ignorons. Et nous les critiquons et nous nous opposons à ces choses. Toute la société fait cela pour essayer de changer les commandements de Dieu en des lois qui disent l'opposé même. Et là où le commandement de Dieu dit « Vous ne ferez pas ceci et cela », la loi dit « Vous pouvez faire ceci ». Maintenant, on a tout changé et changé toute la loi. Et en tant qu'individu également, nous faisons ces choses. Nous mettons de côté les instructions de Dieu, nous l'ignorons, nous le rejetons et nous nous détournons de lui délibérément, constamment, et nous transgressons ses lois terriblement. Et d'une autre manière, nous devrions également l'étudier. Cet univers créé, ce monde créé, c'est extraordinaire, remarquable. Mais c'est simplement comme un indice de ce que Dieu lui-même est. Et nous pouvons l'étudier lui et sa révélation, la parole de Dieu, là où il nous parle de lui-même, de ses attributs, de ses chemins, de son œuvre, de ce qu'il a fait, de ses plans, de ses desseins et comment il a fait ces choses. Et par rapport à nous-mêmes, ce qu'il va faire pour nous et l'éternité. Et nous, nous devrions l'étudier, lui, lui qui nous a tout donné. C'est là le but de l'humanité, que d'étudier Dieu. Mais nous nous sommes opposés à lui et nous volons sa gloire. Et nous voulons uniquement les choses terrestres. Et nous devrions le servir également et parler de lui. Et éduquer nos enfants pour les faire grandir dans le Seigneur, pour qu'ils puissent avoir sa bénédiction, qu'ils puissent l'honorer lui et le connaître. Nous devrions le servir de tant de manières, mais nous ne faisons aucune de ces choses. La gratitude envers Dieu, l'adorer, être reconnaissant, l'amour, l'obéissance, l'étudier, le servir, mais nous n'avons fait aucune de ces choses. C'est une dette terrible que nous lui devons. Mais c'est l'état d'esprit par lequel nous faisons ces choses également qui est un problème. Nous le méprisons, nous sommes indifférents à lui. Ceci me rappelle une histoire, il y a bien des années, que j'ai lue dans un journal, dans un endroit quelque part dans le Sussex. Il y avait un criminel, un jeune homme très sportif, et il volait de maison en maison. Et quand la police essayait de l'attraper, il courait de rue en rue, dans les champs, etc. Et ils n'ont jamais pu l'attraper. Mais la caractéristique de sa fuite, chaque fois que quelqu'un était tout près de lui, il se tournait et il se moquait d'eux. Et ils essayaient de l'attraper. Il a commis ses vols et il l'a fait avec mépris. Un peu comme les pirates d'autrefois, qui attaquaient les navires simplement pour chercher des choses même de peu de valeur. Et un jour, ce jeune homme est tombé dans un trou et il a été attrapé. Et combien ils étaient contents de l'attraper, lui qui se moquait d'eux chaque fois. Ceci me fait penser à ceci, c'est comme nous, pas de reconnaissance, pas d'amour, pas de louange, pas de service pour le Seigneur. Et nous faisons toutes ces choses avec mépris. Mépris envers Dieu, mais il y a un grand trou qui arrive et nous devrons tous un jour faire face devant Dieu et lui rendre compte. Mais ce n'est pas simplement que nous volons notre corps, nos capacités, nos dons, c'est également ce que nous faisons avec ces choses. C'est une autre dimension qui rend cette dette encore pire. J'ai entendu parler d'un jeune homme qui était un homme de loi. Il était avocat. Et il est parti en train et il était assis en face d'un jeune homme qui était à peu près du même âge, très pâle, et ils ont commencé à parler. Cet autre jeune homme lui a dit « Oh, je viens juste de sortir de prison. J'étais en prison parce que j'ai volé une voiture. Et j'étais en prison pendant 5 ans. » Le jeune avocat était surpris parce qu'il savait qu'on n'allait pas en prison pendant 5 ans pour une voiture, c'était plutôt 6 mois. Et il lui a dit, Oh, est-ce que c'était la première fois? Oh, oui. C'était ma première offense. Je n'ai jamais transgressé la loi avant cela. Et le jeune avocat était surpris et rapidement il s'est dit: mais quand vous avez volé la voiture, qu'est-ce que vous avez fait avec cette voiture? Ah, ben là, c'était toute une autre histoire. Il a pris la voiture, il l'a volée, il était à moitié saoul et il est rentré dans une rue, il a renversé quelqu'un qui était blessé et il a été poursuivi par la police et la police l'a rattrapé, ils l'ont arrêté. Et d'une certaine manière, il a réussi à retourner dans sa voiture et il a renversé une autre personne pour la blesser à nouveau. Et quand ils l'ont finalement attrapé, il y avait plusieurs personnes qui étaient blessées dans toute l'histoire. Ainsi, l'avocat n'était pas surpris qu'il était 5 ans en prison. De même, nous avons volé nos corps à Dieu. Nous lui devons tant. Mais qu'est-ce que nous avons fait avec nos corps? Chers amis, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez vécu une vie d'orgueil? Est-ce que vous avez vécu une vie pleine de mensonges? Est-ce que vous avez vécu une vie d'hostilité, de haine, de violence envers votre femme, votre époux ou vos enfants? Est-ce que vous avez été avare? Est-ce que vous avez calomnié les gens derrière leur dos? Qu'est-ce que vous avez fait dans cette vie? Est-ce que vous avez été cruel? Est-ce que vous avez été impur? Est-ce que vous avez été infidèle? Ce que vous avez fait avec votre corps, ceci rajoute à votre sentence quand vous vous tiendrez devant Dieu. Comment nous nous sommes comportés dans cette vie qu'il nous a donnée? Combien, chers amis, combien nous avons besoin du pardon de Dieu, de son amour, de son pardon. Combien nous avons besoin de l'œuvre de Christ dans notre cœur qui est venu du ciel sur cette terre pour mourir à la croix du calvaire, pour prendre la condamnation éternelle de tous ceux qui viennent à lui pour le pardon. Combien nous avons besoin d'une vie nouvelle, d'une nouvelle nature, que Dieu nous pardonne, qu'il nous donne une place au ciel. J'aimerais vous dire quelque chose d'autre. J'aimerais vous dire ce que vous ne pouvez pas voler à Dieu. Vous pouvez voler votre vie, ou du moins pendant quelques années. Vous pouvez voler votre cœur, vos affections, vos dons, vos capacités et votre temps également à Dieu et ne rien lui donner en retour. Peut-être pendant 30 ans ou pendant 60 ans ou plus. Mais ce que vous ne pouvez pas voler, imaginez un peu, pour illustrer mon point, imaginez que le Dieu Tout-Puissant a un grand trésor, immense. Et dans ce coffre-fort, il a des documents précieux et merveilleux. Ces documents, c'est des documents de pardon. Ces documents sont des amnisties. Ces documents sont des certificats. Bien sûr, Dieu n'a pas besoin de ces documents. Il n'a pas de fonctionnaire. Il n'a pas de bureau, il n'a pas de coffre-fort. L'Esprit éternel de Dieu connaît toutes choses, n'a pas besoin de documents. Mais imaginez qu'il a ce coffre-fort avec des certificats pour pouvoir avoir une récompense au ciel, des documents pour être pardonnés pour les pécheurs perdus qui ne peuvent pas mériter sa faveur ou payer leurs dettes qu'ils lui doivent. Mais personne ne peut voler ces documents. Ils sont dans le coffre-fort de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir le pardon et le ciel et une vie nouvelle et la paix avec Dieu, la communion avec lui. Vous ne pouvez pas lui voler ces choses. Aucun prêtre sur cette terre ne peut acheter ces choses pour vous. Il n'y a pas de cérémonie sur cette terre, de rite que vous pouvez faire pour obtenir ce pardon, parce que ce coffre-fort est trop bien gardé et aucun être humain ne peut y arriver. La seule manière d'obtenir le pardon, l'amnistie, un certificat de pardon, une garantie d'être admis à la vie éternelle, c'est à vos genoux, en plaidant devant Dieu, en lui demandant de vous le donner librement, gratuitement, et il va le donner librement à tous ceux qui viennent à lui, se repentant de tout leur cœur, en se repentant du fait qu'ils lui doivent cette dette si immense. Dieu fait cette chose uniquement par sa miséricorde pour ceux qui se repentent, se confient en Christ, en ce qu'il a fait à la croix du calvaire, pour prendre la condamnation du péché à la place de tous ceux qui se repentent. Et alors il ouvre le coffre-fort et il vous pardonne librement. Ce sont des choses extraordinaires, chers amis. Ne devons-nous voir nous-mêmes comme étant entièrement incapables et en ne méritant pas cette grande bénédiction, la plus grande des bénédictions, le pardon et la vie éternelle. Ceci nous rappelle les pauvres enfants dans la ville de Londres au XIXe siècle et dans d'autres villes. Et vers la fin du XIXe siècle, la photographie se répandait. Et peut-être vous avez vu ces photographies des jeunes enfants qui avaient faim et qui étaient si pauvres dans les rues. Il y en avait tant. Et ils dormaient dehors. Beaucoup d'entre eux simplement mendiaient ou volaient ou vendaient des allumettes dans la rue. Beaucoup faisaient partie de bandes de jeunes. Et je suis sûre que vous connaissez l'histoire du docteur Tom Barnardo qui avait tant de compassion pour eux. Et il a ouvert une maison, un refuge, et il les a pris. Et vous connaissez l'histoire, je suis sûre, un jour il a dû renvoyer un enfant parce qu'il n'avait plus de place et ceci a brisé son cœur. Et il a décidé que jamais il ne fera plus ceci. Et il a fait un grand panneau. Aucun enfant pauvre ne sera jamais refusé ici. Et ensuite il a commencé un refuge pour les jeunes filles en 1874. Et comment vous pouviez rentrer ? En étant pauvre, en n'ayant rien, en reconnaissant votre besoin. Et ces photos du XIXe siècle nous montrent des enfants, des jeunes garçons, des jeunes filles dans ces différents refuges. Et Charles Spurgeon avait également des refuges pour les enfants. Et George Muller, également bien connu à Bristol, avait un grand orphelinat. Et vous voyez les photos de ces enfants dans leurs uniformes, avec des chaussettes, des chaussures et un uniforme, la première fois qu'ils avaient ces choses. Et plus âgés, adolescents, ils apprenaient un métier, ils apprenaient différents métiers. Et ils commençaient la vie ainsi, ils étaient formés. Mais pour rentrer dans ces orphelinats, vous deviez être pauvre et réaliser votre besoin et frapper à la porte et plaider. Et c'est de même dans le salut. Je dois descendre de mon orgueil, de ma fierté, en imaginant que je suis une bonne personne, que je peux plaire à Dieu, que je peux mériter mon passage vers le ciel. Et je dois réaliser mon état, ma condition, et combien je lui dois ce que j'ai fait, et venir simplement tel que je suis, comme un pécheur qui a besoin du pardon libre de Dieu et la vie nouvelle et le salut et une nouvelle nature et un nouveau commencement. Et d'être amené sur ce chemin vers le ciel, et je viens dans cet état d'esprit-là, je me repens et je crois en lui et je lui demande et je lui donne ma vie. Ainsi, il me reçoit. Et le coffre-fort s'ouvre. Et le pardon m'est donné, ce document, ce certificat m'est donné d'être un enfant de Dieu, d'entrer un jour dans la félicité céleste. C'est là l'évangile, chers amis, c'est là le message du salut. Nous avons commencé ici. L'homme trompera-t-il Dieu? Car vous me trompez. Retournez à lui, chers amis, et donnez-lui votre vie. Repentez-vous devant lui et invoquez son nom. Et il va vous sauver et vous transformer. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais-nous grâce, nous te prions, ô Seigneur, que notre orgueil ne nous empêche pas de venir à toi. Seigneur, aide-nous pour que nous ne soyons pas balayés dans une existence matérialiste, indifférent, et en accumulant ces dettes pour le jour où nous devons rendre compte. Seigneur, sauve-nous chacun et pardonne-nous. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de notre Sauveur pour sa gloire. Amen.